Il semble que nous soyons prêts à reprendre notre étude. J'explique tout d'abord le pluriel du titre annoncé. L'intention, c'est de ne pas restreindre au ministère pastoral féminin ce que nous allons essayer de discerner dans l'Écriture, mais j'avertis cependant que, comme le sujet des débats, des dissentiments jusque dans les églises évangéliques concerne surtout le ministère pastoral féminin, nous allons quand même consacrer à ce sujet une partie importante du temps que nous avons ensemble. Mais nous essaierons d'ouvrir, mais sans esquiver la difficulté du sujet le plus controversé. Je lis pour introduire quelques versets dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, les versets 2 à 11, et je vais le faire à la manière que ceux qui participent au groupe qui se réunit généralement au sous-sol connaissent. Je vais faire des commentaires en traduisant à partir de l'original, donc les versets en cause, pour que les points litigieux entre interprètes apparaissent à tous et que vous soyez donc informés des choses dont il faut débattre. Je vous félicite, je vous loue, parce que vous vous rappelez tout ce que je vous ai dit, toutes mes choses littéralement, et comment je vous ai transmis les traditions que vous gardez. C'est une introduction qui est sans doute un peu optimiste, hein, délibérément. C'est pour que ses lecteurs acceptent ce qu'il va dire sans se fermer immédiatement que l'apôtre parle de cette manière, parce qu'il va être obligé de censurer des écarts par rapport aux choses qu'il a transmises. Et il les loue dans la mesure où ils ont bien respecté l'enseignement qu'ils ont reçu. Mais en fait, il est obligé quand même de réprimer des abus assez sérieux qui avait lieu dans cette église de Corinthe. Corinthe, une ville cosmopolite, grande ville, hein, un port, avec des populations qui se mélangeaient, avec des traditions de vie un peu déréglées. C'était presque un proverbe dans l'Antiquité. Donc, c'était une jeune église, et les règles qu'avait fixées l'apôtre n'étaient pas suivies à 100%. Dans la suite du chapitre, que nous n'allons pas lire et qui ne nous concerne pas spécialement aujourd'hui, mais c'est quand même très significatif, il est obligé de censurer la manière dont le repas du Seigneur était célébré. Alors c'était un vrai repas fraternel, à l'occasion duquel les chrétiens rompaient le pain et partageaient la coupe, comme nous venons de le faire, mais c'était un vrai repas. Et c'était au point, le désordre était tel que certains étaient sous, ivres. Et il est obligé de censurer jusque cela. C'est vous dire un petit peu de l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans cette église de Corinthe. Et donc, les versets que nous allons lire maintenant concernent la manière d'être et de faire de certains dans cette église. Je veux que vous sachiez que de tout homme, la tête, le chef, je vais dire un mot à ce propos, est le Christ. La tête de la femme, l'homme, au masculin. Et la tête du Christ, Dieu. Alors, il y a des débats assez excité, qui se déroule depuis quelques dizaines d'années, parmi les évangéliques essentiellement. Que veut dire le mot « tête » Il fait image, mais signifie-t-il la question de l'autorité, comme la traduction « chef » le suggère, le mot chef en français veut dire tête, hein, au départ, couvre-chef, hein, c'est ce que, un chapeau. Mais est-ce qu'il signifie cela dans ce passage ou autre chose? Vous avez des gens liés à des courants féministes dans les églises qui refusent l'idée que le mot tête soit significatif de l'autorité. Je crois qu'ils font erreur et qu'en particulier M. Sylvain Romerovski a bien travaillé pour montrer le contraire. Moi, j'ai pas mal travaillé il y a un certain nombre d'années, mais il a travaillé encore bien plus récemment. Et une des choses qui m'avait alerté, c'était, je vous raconte ça, c'est un peu piquant, je lis dans une revue, un article, une revue anglaise, un article qui dit « Oui, la tête, pour nous, pour la pensée gréco-latine, ça veut dire l'autorité, mais pas pour l'hébreu, or la Bible, c'est la pensée hébraïque. » Alors, j'ai réagi, c'est... Au contraire, le mot tête est employé peut-être 700 fois dans l'Ancien Testament pour désigner les chefs. Donc j'ai réagi, etc. Quelques années plus tard, je n'ai pas réagi auprès de l'auteur, hein, j'ai réagi dans un petit article de la revue Ictus à l'époque. Quelques années plus tard, je lis un autre article, américain celui-là, et là, le mari et la femme qui écrivaient ensemble, « Oui, bien sûr, en hébreu, le mot tête veut dire l'autorité, mais le Nouveau Testament est écrit en grec, et donc là, ce n'est pas du tout la même chose, et en grec, ça ne veut pas dire l'autorité. » Vous voyez, c'est dire là, comment la passion sur ces questions oriente à gauche, à droite, même sur des questions de traduction d'un mot. Est-ce qu'il faut traduire chef ou il faut traduire tête? Alors, je crois, pour ma part, assez démontré que c'est la notion d'autorité, qui d'ailleurs est mentionnée expressément un peu plus loin, nous allons voir, qui est en cause. Alors, l'autorité n'est pas facile à définir, nous en parlerons peut-être, si vous le souhaitez, j'espère qu'il y aura quelques moments d'échange entre nous, mais je pense que c'est bien cela. Mais il y a quand même un autre point à propos de ce verset, ou deux autres points même, qui méritent d'être soulevés d'emblée. Il est dit le Christ est la tête de l'homme, et Dieu est la tête du Christ. Est-ce que c'est dit du Christ selon son humanité, en tant qu'il est devenu homme? Parce qu'il y a certains versets, quand Jésus dit « Le Père est plus grand que moi », c'est dans son humanité qu'il se compare à ce moment-là et dit « Le Père est plus grand que moi ». Ou bien est-ce que c'est l'ordre dans la Trinité, dans la divinité même, le Père est premier et le Fils est second? Oui. Là, c'est très difficile de savoir quel est le sens particulier ici. Et puis la deuxième chose que je fais ressortir, c'est que ce n'est pas une hiérarchie. Il y a le Père, il y a le Christ, et puis il y a l'homme, et puis la femme. Vous voyez ? Ce n'est pas une hiérarchie continue. L'ordre des clauses dans ce verset, c'est donc le chef, la tête du Christ, de l'homme, c'est le Christ. De l'homme, c'est la femme. Et le Christ, vous voyez, ça fait plutôt un triangle qu'une hiérarchisation continue. Je crois que c'est intentionnel pour que nous n'ayons pas cette idée hiérarchique à l'esprit. Je continue donc. Tout homme priant ou prophétisant, ayant quelque chose sur la tête, fait honte à sa tête, ou à son chef. Oui. Nous sommes toujours avec ce même mot, hein, dans ce passage. Toute femme priant ou prophétisant la tête non voilée fait honte à sa tête. C'est tout un avec celle qui est rasée. Ça veut dire que c'est équivalent à la situation d'une femme rasée. Si une femme ne se voile pas, qu'elle se rase. Et s'il est honteux pour une femme d'être rasée ou sans cheveux, qu'elle se voile. L'homme, en effet, ne doit pas se voiler la tête, étant image et gloire de Dieu. La femme est, elle, la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'est pas de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme doit avoir une autorité, c'est le mot courant, traduit autorité dans le reste du Nouveau Testament. Mais il y a deux options de compréhension. Autorité au sens d'autorisation. Elle doit recevoir l'autorité de parler. Ou bien elle doit avoir sur la tête le signe de l'autorité dont elle dépend. Voilà les deux interprétations. Et il faut reconnaître que c'est pas le mot lui-même dans le texte original peut très bien se comprendre des deux façons. Voyez. Donc, la femme elle-même doit avoir une autorité sur la tête à cause des anges. Alors, le mot ange pourrait se comprendre des envoyés. Le mot ange en lui-même veut simplement dire un envoyé. Et certains comprennent ici à cause des visiteurs d'autres églises, des envoyés d'autres églises qui sont là. Mais la plupart des gens comprennent qu'il s'agit des anges comme créatures célestes. Mais alors, pourquoi ? Certains ont compris, mais vraiment ça me paraît très éloigné des perspectives que le Nouveau Testament nous enseigne, qu'il s'agit de leur éviter la concupiscence, d'éviter à ces anges d'être séduits par la beauté des femmes s'ils les voient non voilées. Et donc éviter une chute des anges. Ça, c'est une interprétation. L'autre interprétation, qui je crois est mieux établie, finalement, il y a des articles sur toutes ces questions, même des livres. L'autre interprétation, c'est que il s'agit pour nous de nous rendre compte que quand l'Assemblée est réunie, non seulement Dieu est présent, mais le monde invisible est spectateur. Et il y a des anges qui sont là, dans notre culte. Et l'idée que Dieu voit tout est tellement au-dessus de nous que le fait de savoir qu'il y a aussi des anges, des créatures célestes qui sont là, qui nous voient, ça a de l'effet sur nous. Nous disons, mais oui, il s'agit de ne pas avoir une tenue déréglée, de ne pas tomber dans le désordre, vous voyez, ne pas faire honte. Et voilà pour, sans doute le sens de cette expression à cause des anges. Je continue encore j'explique aussi. Alors, la question du voile. Oui. La question du voile. L'interprétation que je crois de loin la meilleure et qui a aussi été bien développée par M. Alfred Kuhn, ce frère qui maintenant est auprès du Seigneur, mais qui a fait un travail considérable pour le monde évangélique francophone. Et j'en ai souvent parlé avec lui de ce sujet et d'autres. C'est que le voile était le signe de la pudeur, le signe d'une conduite chaste dans la société, à l'époque à Corinthe. Les seuls qui ne se voilaient pas, c'étaient les femmes prétendument émancipées et qui se jugeaient la liberté de mener n'importe quelle vie. C'étaient les courtisanes ou d'autres femmes qui les imitaient. Donc il s'agit d'essence dans les assemblées de l'Église. Et c'est le signe que l'on respecte l'ordre établi par Dieu et que l'on ne considère pas que être libéré par le Christ, ça donne le droit à toute licence. Voyez, parce que c'est ça sans doute qui se produisait. Des femmes disant, mais maintenant, il n'y a plus ni homme ni femme, maintenant, on peut faire ce qu'on veut. Et donc, pourquoi encore porter le voile ? Et c'est cet abus-là qu'il réprime à ce moment-là. Alors, c'était un voile qui, sans doute, n'était quand même pas le voile qui ne laisse que les yeux. Mais c'était un voile, c'était pas juste un petit bibi sur la tête. Hein. C'était vraiment un voile qui couvrait tous les cheveux. Le père de l'Église, Tertullien, père de l'Église en Afrique du Nord, vers l'an 200, a tout un traité sur le voile des femmes pour dire que ce ne doit pas être juste un petit carré de tissu, etc. Vous voyez, c'était un voile quand même qui correspondait assez au voile coutumier dans les sociétés du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord aujourd'hui. Pas l'extrême salafiste, mais c'était ce type de voile. Et c'était la coutume. C'était indécent pour une femme d'aller sans ce voile. Alors, il s'agit pour nous de savoir si le commandement vaut toujours tel quel. Les commandements vestimentaires, ils dépendent de l'époque. La signification d'un vêtement est très, très liée à la coutume. Et costume et coutume, ça va ensemble. Et donc, je pense, et là, je ne vais pas développer davantage, qu'il s'agit pour nous, dans ce passage, du principe du respect d'un ordre de décence qui plaît à Dieu et dont la transgression choquerait même les anges présents dans nos assemblées. Et puis encore, les versets 11 et 12, car je pense qu'ils sont très très importants dans notre texte. Toutefois, ce toutefois est très important, parce qu'il montre que Paul a aussi à l'esprit un autre côté. Il vient d'insister sur un certain ordre, mais il ne veut surtout pas d'extrémisme et qu'on isole ce qu'il vient de dire, et donc il prend son virage au verset 11. Toutefois, la femme n'est pas sans l'homme et l'homme n'est pas sans la femme dans le Seigneur. Car de même que la femme est de l'homme, de même aussi l'homme est par la femme et tout est de Dieu. Vous voyez, là, il rétablit un équilibre, il rétablit une vision d'ensemble qui autrement serait mal perçue. Voilà le texte sur lequel je reviendrai à quelques moments, mais je pense qu'il est bon que je récapitule pour commencer, en introduction, après ce texte, ce que nous avons vu dans l'étude précédente du groupe qui se réunit en bas sur le féminisme et que j'avais aussi traité avec le cercle féminin au mois de janvier. Je pense qu'il y a trois points principaux que je peux rappeler et qui constitue donc le cadre général dans lequel la question des ministères féminins doit être traitée. D'abord, la distinction homme-femme est d'une importance capitale pour la vision biblique de l'humanité. Elle est mentionnée dès le premier chapitre de la Genèse, dans le verset qui définit l'être humain parmi toutes les créatures de Dieu. Homme et femme, masculin, féminin, il les créa. Et dans l'espèce de gros plan, du retour en gros plan sur la création de l'humanité au chapitre 2 de la Genèse, le point culminant, c'est la création de la femme avec l'homme. Donc, c'est d'une importance capitale et cela va contre certaines des idéologies communes aujourd'hui. Mais, c'est toujours le premier point, mais nous l'avons vu, c'est quand même une caractéristique seconde pour l'humanité. Cette différenciation homme-femme, elle est très importante pour Dieu, mais ce n'est pas le plus important pour définir l'humain. Le plus important concerne la relation avec Dieu, concerne la création en image de Dieu qui concerne l'homme et la femme. Et le chapitre 2 de la Genèse, par exemple, met tout l'accent sur l'identité de nature. C'est la même nature, là, os de mes os, chair de ma chair. Ce n'est pas la différence qui est mise en valeur. Là, c'est la possession de la même condition humaine et du même privilège dans le rapport à Dieu. Donc ça a des conséquences. Il faut nous le rappeler. Deuxième point, dans l'intention divine, il y a, je crois, une distinction des rôles entre hommes et femmes. Certains théologiens récusent. Il y a un théologien que je connais assez bien, qui enseignait aux États-Unis dans l'école où j'ai enseigné. Il était à la retraite, mais il habitait toujours à côté. Et j'ai été chez lui plusieurs fois, il m'a invité plusieurs fois, parce qu'il est français franco-arménien d'origine, Gilbert Bilezikian, qui a écrit un livre pour démontrer qu'il n'y a aucune différence entre les rôles masculins et féminins dans toute la Bible. Et son livre a été traduit en français, mais le titre anglais n'a pas été maintenu, mais c'est en anglais, au-delà des rôles sexuellement marqués. Beyond sex roles. Donc, et il plaide tout au long pour dire, non, il n'y a aucune différence à faire. Et ce qui veut dire aussi, pour les ministères dans l'Église, aucune différence pour lui. Donc, il ne m'a pas convaincu. Je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point. Je crois qu'il y a une différence. Mais je crois aussi que c'est tout en souplesse dans l'Écriture, que ce n'est pas un enfermement, que ce n'est pas un cadre rigide, que Dieu reste très, très libre d'en jouer dans ses relations avec ses créatures. Et je suggère deux choses. Je suggère d'abord qu'il est très remarquable que les stéréotypes qu'on trouve dans toutes les cultures sur le masculin et le féminin, les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça, et sur ces stéréotypes, ces images toutes faites qu'on base généralement les différences de rôle, que ces stéréotypes soient pratiquement absents de l'écriture. Il n'y en a pas. C'est vraiment... Quand je me suis rendu compte de ça, il y a quelques années, j'ai vraiment été soufflé de me rendre compte de cette pureté par rapport à ces stéréotypes que les femmes jugent si souvent des chaînes, de cette absence de ces stéréotypes dans l'écriture. Et je pense que quant à la différence des rôles, l'illustration la plus parlante, c'est celle du metteur en scène ou directeur de producteur d'une pièce au théâtre. Il assigne des rôles. Alors il choisit, il peut y avoir deux acteurs qui sont très très proches par leurs aptitudes, etc. C'est lui qui décide. Voilà, un tel va jouer ce rôle, l'autre va jouer l'autre rôle. L'homme et la femme ont, sur la scène du monde, le grand théâtre de l'univers, à jouer pour l'homme plutôt le rôle de représentant du Seigneur et pour la femme le rôle de représentant de l'épouse du Seigneur, à savoir l'humanité rachetée, l'humanité en communion avec Dieu. C'est dans ces perspectives, je crois, qu'il faut voir la plupart des textes bibliques. Mais il y a quand même des différences, du coup, plus précises et concrètes qui se dessinent, et c'est le troisième point. Troisième point, la différence la plus nette et déterminante, il y a de très grandes conséquences dans la vie de tous les jours, c'est l'assignation de la tâche d'enfanter à la femme. La femme aura cette tâche, alors il faut les deux, hein, la procréation, le mystère de la procréation est un mystère partagé, mais la part la plus lourde, hein, c'est la femme. Cela est indéniable et a pesé très, très lourd dans toute l'histoire. Alors, dans l'ordre originel de la création de Dieu, ça a sans doute été facile, assez léger. Le péché n'annule pas cette vocation. Comme Genèse 3 le montre, tu enfanteras des fils, et même je multiplierai. Donc peut-être que, prévoyant tous les meurtres, etc., pour que l'humanité subsiste, Dieu a fait en sorte qu'après le péché, les grossesses étaient encore plus nombreuses, mais dans la douleur, dans la douleur. Alors ce n'est pas un commandement qu'il faut faire mal, non, non, mais c'est la conséquence du péché dans la vie humaine. Et cela, Jésus même l'a relevé, hein, dans les jours difficiles, dans les moments de guerre, etc. Oh, le malheur de celles qui allaitent, celles qui sont enceintes, de celles qui allaitent, ça, c'est un poids. Quand Jésus dit malheur, ça ne veut pas dire je veux que le malheur s'abatte sur elle. Non, il exprime sa douleur devant le malheur que représente de subir tous les aléas de la guerre, etc., alors qu'il y a la tâche de maternité qui est à accomplir. Cette tâche est à la fois théologiquement la plus glorieuse. Il n'y a rien de plus beau pour les êtres humains que d'imiter Dieu en faisant advenir un être à la destinée éternelle. C'est un chef-d'œuvre que l'être humain, bien supérieur au pont de Tancarville, ou toutes les fusées que les hommes ont pu concevoir et fabriquer. Et ça, c'est plus spécialement la femme. Et elle sait le mystère que ça représente. Ève s'écrie, j'ai procréé un homme avec l'Éternel. C'est littéralement la traduction, avec l'Éternel. Genèse 4, verset 1. Mais ça a des conséquences dans le monde de péché qui sont lourdes. Voilà les grands traits que nous avons essayé de discerner le mois dernier dans mon groupe, dans l'Écriture. Alors maintenant, nous parlons plus précisément des services dans l'Église, des ministères et du rapport donc aux femmes. Alors, j'ai trois parties. D'abord, les données à prendre en compte dans l'Écriture. Deuxièmement, les diverses façons de les concilier qui sont proposées, mais je n'en retiendrai qu'une. Et puis, un développement, alors, à partir du choix que je vous proposerai. Alors d'abord, les données à prendre en compte. Il faut nous rendre compte, me semble-t-il, que les données bibliques ne vont pas en premier abord, du premier abord, toutes dans le même sens. Il y a des données diverses qu'il faut savoir prendre ensemble pour avoir une vision équilibrée des choses. Je crois que la faute de certains qui traitent du sujet, c'est de n'en considérer qu'une catégorie de ces données. Alors, ce n'est pas que la Bible se contredise, mais il y a des antagonismes qui produisent des équilibres heureux et utiles. Moi, j'aime toujours rappeler que le mot antagoniste est utilisé pour les muscles par les spécialistes de l'anatomie humaine. Si nous pouvons bouger le bras, c'est parce qu'il y a des muscles antagonistes. C'est comme ça qu'ils sont appelés. Et il y a des vérités antagonistes dans l'Écriture. Et il ne faut pas, donc, isoler un élément par distinction des autres. Alors, il y a des textes qui paraissent très restrictifs quant au ministère féminin, en tout cas, ceux qui sont revêtus d'autorité. Il y a le texte d'1 Corinthiens 14, 34, que les femmes se taisent dans les assemblées. Vous connaissez, vous avez vu ce texte. Il y a le texte d'1 Timothée 2, versets 11 et suivants. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Voilà les textes très, très restrictifs. Et il n'y a pas seulement ces textes qui vont dans ce sens. Il y a des textes. Il y a le fait que Jésus n'a choisi aucune femme parmi les 12 apôtres et que nous n'avons aucun cas qui nous soit présenté dans le Nouveau Testament d'une femme qui serait épiscope ou ancien. Ce sont les deux titres qui sont à peu près équivalents. Quand Paul s'adresse dans le livre des Actes aux anciens de l'église d'Éphèse, il dit que le Saint-Esprit les a établis comme épiscopes, c'est-à-dire surveillant en charge de l'administration du gouvernement. Le fait est que dans le Nouveau Testament, nous n'avons aucun cas de femme qui soit dans cet office. Alors, il n'y a pas d'interdiction, hein, mais il n'y a pas d'indication dans ce sens. Et lorsque, au début d'1 Timothée 3, l'apôtre évoque les caractéristiques qui sont à considérer pour le choix d'un épiscope, ça correspond en gros à pasteur pour nous, hein. Là, il n'envisage pas de femme, il ne parle pas de femme, il doit être mari d'une seule femme, il doit bien diriger sa maison, mais il n'est question que d'homme dans ce paragraphe. Ça, c'est des données bibliques. Mais il n'y a pas que ces données-là il y a des données que j'appellerais des données d'ouverture, des données qui élargissent et qui sont aussi très importantes. Dans l'Ancien Testament, déjà, il y a Déborah. Déborah, elle est juge en Israël, ça veut dire qu'elle gouverne, hein. C'est elle qui dirige les destinées du peuple de Dieu. Elle est prophétesse, mais aussi juge établi par Dieu, de manière évidente. Il y a les prophétesses qui jouent un rôle vraiment non négligeable. Et ma grand-mère, parce que ma grand-mère a été dans notre église la première femme pasteur de France. Donc ma grand-mère aimait beaucoup rappeler que lorsque, au temps du roi Josias, on a retrouvé une copie de la loi qu'on avait pratiquement oubliée en faisant des travaux dans le temple. On a retrouvé une copie de la loi et il fallait savoir que faire. On a été consulté un prophète, mais c'est la prophétesse, Hulda, la prophétesse, qui a été consultée. Ça n'a pas été le jeune Jérémie ou Habacuc, qui étaient des prophètes de la même époque, masculins. C'est Hulda, vous voyez. Donc, il y a ces prophétesses qui jouent un rôle non négligeable. Il y a aussi celles que la Bible appelle des femmes sages, qui jouent un rôle important dans la vie publique à cause de leur sagesse. Moi, je me rappelais la femme sage que Joab, le général Joab, a envoyée auprès de David pour intercéder en faveur d'Absalom. Elle était connue, vous voyez, mais j'ai été frappé en lisant récemment, j'avais un peu oublié cet épisode, en 2 Samuel 20, il y a eu une révolte après que David a pu revenir à Jérusalem, que la révolte de son fils a été réprimée. Il y a eu une autre révolte d'un certain Sheva. Et finalement, l'armée de David a assiégé la ville où se trouvait ce rebelle avec ses troupes, Abel Mehamaaka, de Samuel 20, et la situation paraissait vraiment très très très, très, très chaude et menaçant d'une grande effusion de sang. Et c'est une femme sage de cette ville qui a pris l'initiative, et apparemment tous les concitoyens ont reconnu que c'était elle qui pouvait être la représentante de l'ensemble de la ville et décider, qui est intervenue, a proposé une solution, qui a engagé des négociations diplomatiques avec le général Joab. Vous voyez ? Donc là, nous avons des cas de personnes qui sont manifestement, selon la volonté de Dieu, de femmes qui jouent un rôle de direction et d'entraînement. Et puis dans le Nouveau Testament, il y a toutes les prophétesses qui sont importantes. Il y a les sept filles de Philippe, vous voyez. Et nous avons dans le passage dans Corinthiens 11 une femme qui prie ou prophétise. Voilà, c'est une option qui est tout à fait normal pour Paul, qu'une femme dans l'Église prie ou prophétise. Alors, certains ont essayé, vous voyez, de dire, mais c'est en privé seulement. Ce texte ne concerne pas la conduite privée. Manifestement, il s'agit du bon ordre dans les assemblées d'Église. Donc, voilà, il est normal que des femmes prophétisent. Et il y a un verset assez intéressant dans l'Apocalypse. Alors, c'est une femme fausse prophétesse qui est appelée d'un nom de code en quelque sorte, Jézabel, dans l'église de Thyatire, et il dit qu'elle enseigne aux fidèles à faire des choses que le Seigneur ne veut pas, hein, mais elle n'est pas censurée pour prendre la parole dans l'église. Elle est censurée à cause de ce qu'elle dit, parce qu'elle est fausse prophétesse, mais elle est fausse imite les vrais. Le fait que cette femme dans cette église ait eu ce rôle d'influence montre que c'était habituel que des femmes aussi puissent jouer un rôle de ce genre. Donc c'est un texte que j'appelle un texte d'ouverture. Il y a les diacres de la deuxième partie d'Antimothée 3. Là, il est question précisément des femmes, les hommes et les femmes. Alors, je dis bien diacre et pas diaconesse, parce que nous avons une image liée au mot diaconesse en français qui ne correspond pas. Les diacres semblent avoir été très, très polyvalents. Ce n'est pas seulement le service des tables dans le Nouveau Testament. C'est un service polyvalent un peu dans tous les domaines du ministère. Sans la responsabilité du gouvernement, la responsabilité en tout cas ultime du gouvernement, mais là, vous voyez, elles sont mentionnées dans la première à Timothée au chapitre 3. Il y a toutes les collaboratrices de Paul. Romains 16 est plein de noms de femmes, et il en parle à d'autres reprises aussi dans l'Épître aux Philippiens, etc., des femmes qui étaient de son équipe d'évangélisation, de mission, et c'était pas seulement pour servir le thé, hein. C'était vraiment des femmes qui ont travaillé pour l'Évangile, très nombreuses. Et il y en a deux qui sont mentionnées dans Romains 16 avec des titres spéciaux. Il leur recommande Phébé, qui est de l'église de Sancré, près de Corinthe, et il lui donne le titre, alors en grec c'est Prostatis. Si c'était le masculin, tout le monde traduirait président. C'est ça ce que veut dire ce titre. Alors, appliqué à une femme dans ce texte, on peut penser que c'est plutôt au sens d'une garante juridique, d'une femme de pouvoir et d'influence dans la société qui s'est portée auprès des tribunaux, en particulier garante pour des chrétiens. Mais c'est un titre qui implique quand même une certaine autorité, sans nul doute. Et puis un peu plus loin, il y a Andronikos et Junia, qui sont de grand renom parmi les apôtres. Alors malheureusement, la phrase est telle qu'on peut comprendre de plusieurs façons. On peut comprendre que les apôtres, les douze, Pierre, Paul, etc., ont une grande estime pour ce couple, Andronikos et Junia. Mais on peut aussi comprendre qu'ils étaient eux-mêmes apôtres, alors là, au sens de missionnaires. Que c'est un couple missionnaire qui ont acquis un certain renom, une certaine autorité. Mais en tout cas, son nom ressort. Alors, je vous signale aussi là, pour vous montrer la difficulté dans les débats, que certains disent, c'est pas Junia, nom féminin, c'est Junias, nom masculin. C'était donc deux hommes, Andronikos et Junias. La forme du mot dans le grec du Nouveau Testament pourrait correspondre aussi à un nom masculin, Junias. Et quand j'avais lu ça, je me suis dit, ah oui, alors là, on peut difficilement affirmer que c'est une femme. Étant donné ce qui suit, on peut penser que c'était aussi un homme, puisque c'est plus habituel qu'il soit parmi les missionnaires, nommé parmi les missionnaires, jusqu'à ce que je lise un renseignement supplémentaire. Oui, ça pourrait être un nom masculin dans cette forme de grec, mais on n'a aucun cas d'usage de ce nom au masculin. Vous voyez ? Alors, à ce moment-là, ça devient très improbable que le nom soit le nom masculin. Il est bien connu comme nom féminin, donc voyez comment, quand on a un renseignement partiel, comment on peut s'égarer. Quand on vous dit simplement ça pourrait être un masculin, ah bon, mais quand on vous complète le renseignement en disant mais on n'a aucun cas d'usage d'un tel nom masculin, alors là, voyez. Donc il y a ces données-là, et puis le cas pour moi suprême dans le Nouveau Testament, le cas de Prisca ou Priscilla, deux formes sont utilisées. Priscille, l'épouse d'Aquila, qui, contrairement aux usages vraiment de l'époque, est nommée avant son mari plusieurs fois. Il est sûr, me semble-t-il, que Prisca Priscilla a joué un rôle d'influence très important. C'est elle qui, avec son mari, mais elle est en tête, a expliqué au théologien Apollos ce qu'il n'avait pas encore compris. Prisca Priscilla a joué un rôle de premier plan dans l'Église du Nouveau Testament. Donc nous avons, vous voyez, des données qui vont dans deux sens différents, restrictifs et vers l'élargissement. Alors, comment les concilier? Première façon, donc, je dis, ça ne me paraît pas satisfaisant, c'est de rejeter les textes restrictifs. Alors, il y a deux façons de les rejeter. Il y a une façon déjà libérale, que les évangéliques, normalement, ne pourraient pas envisager, en disant, ben, ça, c'est pas inspiré de Dieu. Ces textes restrictifs, voilà, j'ai un théologien, il est mort maintenant, qui enseignait dans la faculté Fuller, celle où notre sœur Evelyne Zaché a enseigné aussi. Je l'ai bien connu personnellement, qui a écrit un livre où il dit, bon, là c'est le vieux rabbin Paul qui revient, c'est pas inspiré. Il était inspiré quand il a écrit « Il n'y a plus ni homme ni femme » Galates 3:28. Non. Même ses collègues à la faculté ont censuré, ont dit non, ça on ne peut pas dire ça. Vous voyez. Mais il y en a d'autres qui sont plus habiles. Gilbert Bilezikian, qu'est-ce qu'il fait, cet ami que j'ai mentionné. Il dit, quand Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées, ce sont ses adversaires qu'il cite. C'est une citation contre laquelle le reste de son discours est dirigé. Vous voyez. Donc, vous voyez, c'est une façon de... Bon, à mon avis, ça ne peut pas vraiment tenir. Mais je vous signale qu'il y a des chrétiens évangéliques qui adoptent une telle attitude. Pour un Timothée 2, ma grand-mère, moi je n'étais pas d'accord avec elle, ma grand-mère plaidait que c'était juste dans le couple, que c'était... La femme ne doit pas enseigner et prendre autorité sur son mari. Parce qu'on peut traduire aussi, c'est son homme, son mari. Donc, c'est une première façon de faire qui ne me semble pas satisfaisante. Deuxième façon de faire, juste inverse, c'est la négligence des données d'ouverture. Et ça, c'est très, très courant parmi les évangéliques les plus conservateurs. C'est le grand piège de la lecture évangélique des Écritures, souvent. Nous savons que toute parole est inspirée de Dieu, donc il nous suffit d'avoir un verset ou l'autre, et puis voilà, tout semble réglé. Alors, Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, donc c'est fini, on n'a pas à regarder le reste. Vous voyez, ça, c'est un piège de paresse des évangéliques. Tous les versets doivent être pris dans leur contexte, avec toutes les autres données qui équilibrent bibliquement. Troisième façon, une sorte de neutralisation des textes restrictifs au nom du contexte, au nom de la nécessité de transposer selon le contexte. On nous dit, oui, bien sûr, Paul dit ça, mais c'est parce qu'à son époque, les femmes étaient analphabètes, ou pratiquement, elles n'avaient pas le bénéfice de l'éducation, donc il ne veut pas qu'elles enseignent dans les assemblées, mais c'était pour l'époque, et ça ne joue plus pour la nôtre. Vous voyez, c'est une utilisation d'un principe qui est juste. Toute parole doit être comprise dans le contexte, et il faut en tenir compte. Mais en l'occurrence, ça ne me semble pas la solution satisfaisante, parce que pratiquement chaque fois que Paul aborde le sujet, dans 1 Corinthiens 11 que nous avons lu, comme dans 1 Corinthiens 14, où il mentionne la loi, la Torah, et dans 1 Timothée 2, où il revient encore sur Genèse 2 et 3, chaque fois, Paul accroche son exhortation au texte sur la création par Dieu. Donc, ça suggère quand même que ce n'est pas une simple disposition qui vaut pratiquement dans un contexte donné, mais qu'il y a quelque chose de permanent fondée sur la création qui est en cause. Alors, le contexte, il est bon d'en tenir compte. C'est ce que j'ai suggéré de faire à propos du voile. Il faut que la tenue soit décente d'après les normes dans le contexte. Mais ce n'est pas littéralement dans un autre contexte la même chose qu'il faut appliquer. Mais donc il y a des données à prendre en compte. Et je crois que, par exemple, l'autorité d'enseigner est assez différente dans notre société, que ça s'est démultiplié, qu'il y a diverses sortes d'enseignements, donc qu'on peut tenir compte de cette différence dans le contexte. Mais les principes mêmes qu'a posé l'apôtre, je pense qu'ils sont liés alors à un ordre de la création divine. Je trouve aussi que c'est une solution insuffisante que celle qui dit « Ah oui, mais si le gouvernement de l'Église est collégial, alors là, il n'y a pas de problème ». L'apôtre Paul, quand même, dit quelque chose qui est spécifiquement orienté vers les femmes. Et la nécessité d'être collégiale, c'est pour les hommes aussi bien. Il est bon que l'autorité ne s'exerce pas de manière personnelle, mais qu'elle soit partagée pour les hommes aussi bien que pour les femmes. Donc, ça ne suffit pas à concilier ces données. Alors, je vous dis ce que je crois, moi, là. La solution la plus heureuse, ce que je propose, je l'ai fait à quelques reprises, je crois qu'il faut distinguer entre ordinaire et extraordinaire. Ce sont des catégories juridiques reconnues. Il y a des ambassadeurs ordinaires, l'ambassadeur de France en Allemagne, etc., et des ambassadeurs extraordinaires. Ça ne veut pas dire exceptionnel, ça veut dire qui se distingue de l'ordre qui est établi. Le mot ordinaire vient du mot ordre. Il y a un ordre, mais c'est un ordre qui n'emprisonne pas Dieu en particulier. C'est un ordre qu'il a établi, il a assigné des vocations distinctes, mais il est tout à fait libre de susciter des vocations extraordinaires. On emploie aussi l'expression pour les professeurs, hein, depuis des siècles. Il y a les professeurs ordinaires et les professeurs extraordinaires dans les universités. Et je suggère que c'est la bonne façon de réconcilier les textes que nous avons lus et ces deux directions qui doivent jouer ensemble. Oui, il y a un ordre de Dieu. Et à titre ordinaire, c'est 1 Timothée 2, 1 Corinthiens 14. Mais Dieu reste parfaitement libre de susciter des ministères extraordinaires. Il n'y a pas de problème à le reconnaître. Des Déborah, des Priscille, il peut le faire aussi bien. Voyez. Voilà le schéma que je suggère. Alors, à quoi est-ce qu'on aboutit? C'est mon troisième point. Je pense qu'on peut dire que la plupart des ministères, qui sont des fonctions dans le corps de l'Église et qui sont l'autre face des charismes. Un charisme, c'est ce qui permet d'exercer un ministère, un service. La plupart sont ouverts sans différenciation expresse relative au sexe, aussi bien des hommes et des femmes. La plupart des fonctions dans l'Église, il n'y a rien dans l'Écriture qui semble en exclure un des deux sexes. Et en particulier, le fait que les diacres puissent être aussi bien féminins que masculins, d'après le texte d'1 Timothée 3, donc ça, à titre tout à fait ordinaire, et que les diacres, ça je crois que pour le plaider, interviennent pratiquement dans tous les domaines, on détache, montre que là, il y a une très grande ouverture qui est possible. Alors, je pense que l'accent sur la maternité, qui n'est pas un emprisonnement, dans le Nouveau Testament en particulier, des femmes peuvent accomplir parfaitement leur vocation de femme sans être biologiquement mère, mais que la maternité, étant donné sa place dans la vocation de la femme, peut colorer l'exercice de tous les ministères. Que des ministères qui sont assez proches du soin maternel leur conviendront spécialement. Ça n'exclut pas les hommes et ça ne les emprisonne pas là, mais je pense que c'est possible. Et une façon plus maternel peut-être, d'exercer l'autorité, même dans les ministères extraordinaires. En particulier, mon deuxième point, le ministère prophétique est ouvert à toutes comme à tous. Ah, il faut que Dieu, bien sûr, désigne, mais là, ce qui est ordinaire inclut aussi bien les prophétesses que les prophètes. Je crois, doit être affirmé bibliquement. Et ça va loin, parce que la prophétie dans le Nouveau Testament, la prophétie d'Église, pas celle qui est dans l'Écriture, mais la prophétie qui se déroule dans l'Église, je crois qu'on peut montrer que c'est à peu près l'équivalent de 80% de la prédication dans nos églises. C'est l'exhortation. Ce n'est pas seulement j'ai tout à coup une révélation sur quelque chose. Oui, c'est une forme, ça peut exister. Mais c'est aussi expliquer la parole selon l'analogie de la foi, l'appliquer. Ce qui caractérise la prophétie par rapport à l'enseignement, c'est que la prophétie vise un moment donné, un lieu donné. C'est maintenant ce qu'il faut faire au nom de Dieu. C'est cette mise en cause personnelle et précise qui caractérise la prophétie par rapport à l'enseignement qui présente ce qui est vrai toujours et en tout temps, partout. Donc, à mon avis, il faut nous rendre compte qu'une prédication féminine, c'est ordinaire dans les perspectives bibliques. La Bible appelant sa prophétie. Vous voyez ? En ce qui concerne le ministère doctoral, l'enseignement de la foi reçue une fois pour toutes dans son ordre, le ministère que je crois le Seigneur m'a donné quand même, là je pense que c'est à titre extraordinaire seulement, ouvert aux femmes. C'est ouvert aussi, mais à titre extraordinaire, parce que ça ne correspond pas à l'assignation des rôles que Dieu a faite, mais que Dieu a faite sans s'être lié les mains pour autant. Et de même pour le ministère de gouvernement, le ministère pastoral. Je pense qu'une Priscille a un ministère extraordinaire dans le Nouveau Testament. Elle a vraiment un ministère de direction, et Déborah dans l'Ancien. C'est un ministère que Dieu a suscité, mais qui ne correspond pas à l'ordre habituel que Dieu a suscité. Mais si Dieu donne des dons, voilà, il faut le reconnaître, il suscite un ministère extraordinaire. Et je pense pour ma part, alors elle qui était féministe, elle n'était pas tout à fait d'accord, mais je pense que c'est un ministère extraordinaire que Dieu avait donné à ma grand-mère, Madame Blocher-Saïens Blocher. Donc, vous voyez comment ces directions se précisent, et aussi par rapport à la vie de notre Église. Voilà, alors il reste quand même quelques minutes, heureusement, pour que je puisse essayer de réagir à vos remarques. Vous êtes libres. Mesdames d'abord, et oui.
J'ai une question, parce qu'en fin de chacun, on se base, on dit qu'on n'est pas un ministère extraordinaire, et face à une désobéissance, on trouve un ministère très structuré comme celui de Joss Meyer. Est-ce qu'on désobéit à Dieu, ou est-ce qu'on est face à un ministère? De toute façon, en fait, pour moi, les critères, j'ai mal, c'est pas très clair, qu'est-ce que les critères?
Alors, si j'ai bien compris la question, donc, quels sont les critères pour déterminer un ministère extraordinaire? Le critère quant à la définition au départ est biblique. Moi, si je dis c'est un ministère extraordinaire et non pas ordinaire, c'est parce que je suis obligé de tenir compte d'un Corinthiens 14, d'un Timothée 2. C'est à cause de ces textes-là que je ne peux pas faire comme mon ami Gilbert Bilezikian, et dire non, tout est ordinaire, en quelque sorte, il n'y a aucune différence. J'estime qu'il ne tient pas suffisamment compte de ces versets-là. Donc, du point de vue du fondement théologique, c'est là qu'est pour moi le critère. Du point de vue du discernement, quand une personne est en cause, alors c'est essentiellement les dons. Parce que 1 Corinthiens 12 me semble vraiment montrer que les dons, charismes conférés par l'Esprit et les ministères, c'est une seule et même réalité. Il y a diversité de dons, diversité de ministères. Le don, ça correspond à la relation au Saint-Esprit, et le ministère, la relation au Seigneur, envers qui nous sommes responsables et rendons compte de notre ministère. Mais c'est une seule et même réalité, comme l'Esprit et le Seigneur sont un. Donc, si les dons sont là, et une certaine conviction quand même, je pense, hein, le Seigneur nous parle de diverses façons et de diverses façons selon les gens. Hein. Dieu a sa propre façon de communiquer avec chacun. Mais s'il y a une conviction, s'il y a les dons qui sont là, moi je dis, bon, bien, je reconnais que Dieu a suscité un ministère extraordinaire. C'est ce que je dis pour ma grand-mère, mais je pense à un ministère extraordinaire mondial actuellement. Il me tient à cœur parce que j'ai connu la personne quand elle était étudiante. Mais c'était pas très facile à ce moment-là spirituellement pour elle. Or, elle est aujourd'hui un des instruments les plus puissamment utilisés par Dieu dans le monde entier. Elle est venue en France au mois de novembre dernier, mais pas à Paris. Donc, je ne l'ai pas vue, c'est Rebecca Pipert. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle, mais il y a des milliers de conversions qui se produisent, des gens qui consacrent leur vie au Seigneur dans beaucoup de pays par son ministère aujourd'hui. Elle vient d'avoir une opération, d'ailleurs, parce que je reçois des nouvelles, une opération de prothèse de la hanche, parce que je l'ai connue comme étudiante, j'étais jeune. Et donc, elle a je crois, environ 70 ans maintenant, mais elle a encore un ministère qui est considérable dans le monde. Pour moi, c'est un ministère extraordinaire. Je remercie le Seigneur. Je ne savais pas que c'était elle, avant, ça me fait maintenant 10-15 ans, puis j'ai vu un livre d'elle avec la photo sur la couverture, mais je dis mais c'est Becky, parce qu'on l'appelait Rebecca Becky quand elle était jeune. Donc voilà, un ministère extraordinaire. À certains égards, je pense que je peux dire que les dons sont là pour le ministère de mademoiselle Lydia Yeager à l'Institut. Je pense qu'elle a un ministère doctoral pour les églises évangéliques qui est vraiment très fructueux et qu'elle a les dons qui l'ont propulsé en quelque sorte de la part du Seigneur dans son rôle. Voilà, voilà il y a des illustrations pour répondre à la question. Oui, oui, madame.
Juste une question. Donc, la première partie, en fait, où nous en sommes donc au niveau du corps de foulard de la femme?
Alors, à mon avis, et je me couvre aussi en parlant d'Alfred Kuhn, c'était aussi pour moi un ami vénéré, nous ne sommes pas du tout obligés de l'appliquer littéralement, parce que ça avait une signification dans le contexte de Corinthe au 1er siècle que ça n'a plus du tout aujourd'hui. Donc, il s'agit de trouver l'équivalent quant au principe aujourd'hui. Alors, je pense que ça veut dire une tenue décente qui ne choque pas, qui n'attire pas l'attention, peut-être pas de mini-jupe trop mini, etc. Et dans l'Église en particulier, ça choquerait les anges. Vous voyez ce que je veux dire. Je crois que c'est comme ça qu'il faut raisonner en la matière. J'imaginerais par exemple qu'une missionnaire dans une société islamisée, elle porte un voile, alors vraiment un voile, peut-être pas ne laissant que les yeux même, mais il faut tenir compte donc du contexte et de la signification vestimentaire. Moi, je me rappelle une collègue, c'était un professeur à Wheaton College aussi, une théologienne, professeure du Nouveau Testament, qui disait que aller sans ce voile au 1er siècle, c'était presque l'équivalent d'aller les seins nus aujourd'hui pour nous. C'est aussi choquant, montrer ses cheveux, oui, paraissait vraiment une indécence. Et donc, apparemment, certaines femmes chrétiennes de Corinthe, sous prétexte de libération par le Christ, croyaient qu'elles pouvaient aller jusque-là. Puisque c'était le monde, les règles du monde, allez hop, nous sommes libres. Non, 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 non. Oui, madame.
Après, durant le ministère du Christ, il a appelé des disciples pour son ministère, mais on n'a pas vu parmi les disciples qu'il a appelé aucune des femmes à aller à son ministère. Est-ce qu'il y a des situations
Oui. Alors, c'est une donnée biblique, je l'ai signalé, parmi les apôtres, les 12, et apparemment aussi parmi les 70, quand il l'a envoyé, apparemment il n'y a pas eu de femme. Est-ce que c'est un reflet de cet ordre de l'ordinaire? Peut-être, pas, à mon avis, ce n'est pas absolument sûr. Ce peut être aussi très pratique et contextuel. Parce que, d'abord, se déplacer tous sur les routes, etc., pour une femme, ça aurait pu poser des problèmes. Et puis, le témoignage des femmes n'était pas reçu en justice. Donc, le témoignage des paroles du Seigneur Jésus et de sa résurrection, ça n'aurait pas été reçu. Or, les apôtres étaient les témoins de la résurrection, d'abord, témoins oculaires de la résurrection. Donc, je pense que ça peut être la raison pour laquelle Jésus n'a pas confier cette mission officielle à des femmes. Mais il s'est quand même montré d'abord à des femmes ressuscitées. Et c'est, je crois, Jean Chrysostome, le père de l'Église, qui appelait Marie et les autres les évangélistes des apôtres. Celles qui ont été évangélisées, les apôtres qui leur ont apporté la bonne nouvelle, il est ressuscité. Alors, ils ne les ont pas cru. Hein. Ils ont dit, racontard de bonne femme, voilà. Ils étaient encore prisonniers des stéréotypes. Mais ça a été aussi, je pense, une initiative par laquelle le Seigneur Jésus a voulu montrer la dignité de la femme. Oui, madame. Alors, disciples, oui, il y a eu des femmes disciples, pas apôtres, mais au sens des 12 en tout cas, 12 plus Paul, hein, parce que Paul c'est l'apôtre des nations, c'est pas le 12e, c'est celui qui est en plus, parce qu'il est l'apôtre des nations, alors que les 12 correspondent aux 12 tribus d'Israël. Et, bon, donc ça c'est les apôtres au sens fort, on pourrait mettre une majuscule. Alors là, il n'y a pas de femme, ça c'est clair. Mais même si Junia l'est quand c'est la minuscule, quand c'est les apôtres au sens missionnaire, comme nous avons, nous, le sens de missionnaire. Mais il y a des disciples, et même pratiquement et financièrement, ce sont des femmes qui ont permis à Jésus et au groupe des disciples de subsister. C'est elles qui, des femmes de distinction, en particulier des veuves, parce que les veuves, c'était les femmes les plus libres, concrètement, dans la société d'alors. Hein. Des veuves qui avaient de certains moyens et qui soutenaient la mission de Jésus avec les apôtres pendant les 3 ans de son ministère terrestre. Donc, ouais, elles ont compté aussi, et elles ont eu vraiment un rôle. Oui, oui. Oui, bon. Oui. Alors, deux choses à ce propos. La première, c'est que j'ai essayé de le dire. Si les principes sont fondés sur la création et sont valables pour tous les temps, l'expression de ces principes tient compte du contexte. Donc là, il y a des différences, je crois, dont nous sommes sages de tenir compte. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que je crains quand même que nous ne caricaturions l'état social, en particulier de l'Ancien Testament, par exemple. On dit patriarcal, on croit avoir tout dit, mais la femme de Proverbe 31, elle a un rôle d'autonomie, elle est actrice dans la scène économique, etc. Les femmes sages dont j'ai parlé, mais elles jouent un rôle vraiment important dans la société. Donc c'est peut-être moins unilatéralement patriarcal que souvent les résumés ne le suggèrent. Et en ce qui concerne le judaïsme du 1er siècle, je crois vraiment qu'on le caricature. Et qu'on présente parfois Jésus comme en pure opposition avec son milieu, alors qu'il n'y a pas eu de controverse sur ce point. Nulle part on ne voit Jésus discuter de cette condition de la femme avec les docteurs de la loi. Donc, en fait, je crois que beaucoup de livres caricaturent la façon dont le judaïsme même, alors il y a des écrits injustes qui ont protesté, j'en ai lu aussi, mais et on cite toujours la prière de l'homme, je te remercie de ne pas m'avoir fait femme, mais il y a la prière de la femme, je te remercie de m'avoir fait femme, aussi, elle est aussi prévue. Chacun remercie le Seigneur pour la sagesse de son assignation. Et donc, c'est moins choquant que si c'était juste unilatéral. Voilà, nous avons atteint un peu dépassé l'heure, donc je rends la présidence à notre pasteur.